Vous écoutez, on lit pour vous.
Des étudiants africains abandonnés sans possibilité de reprise. Un texte de Lisa Marie Gervais paru le 29 janvier 2025 dans Le Devoir. Voyant que plusieurs de leurs camarades ont obtenu une deuxième chance, des infirmières et infirmiers recrutés en Afrique qui ont été exclus après un échec disent avoir été abandonnés par le programme, n'ayant pas eu de possibilité de reprise. Depuis le début de ce programme gouvernemental visant à recruter 1000 infirmiers et infirmières diplômés hors Canada, environ 120 personnes, toutes phases confondues, ont eu un échec et la moitié seulement s'est vue offrir une possibilité de reprise à ce jour. Pourtant, plusieurs de ces étudiants avaient presque fini leur formation. Certains en étaient même à leur dernier stage. Comme l'a révélé Le Devoir, après une vague d'échecs au printemps 2024 au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, 16 dans une cohorte de 40, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, MIFI, a consenti à organiser une reprise et 14 personnes ont pu reprendre, à l'automne 2024, le module auquel elles avaient échoué. Mais les étudiants ayant échoué ailleurs au Québec n'ont pas tous eu une deuxième chance, a pu constater Le Devoir. C'est le cas d'un étudiant d'un cégep de la Montérégie qui a raconté avoir lui aussi été exclu du programme au printemps 2024 après un échec à l'un de ses derniers stages. « On ne m'a pas offert de reprise. Je n'ai jamais pu m'expliquer », dit au Devoir cet homme qui garde l'anonymat par crainte de représailles. Sans statut et sans revenu, il dit avoir sombré dans une dépression. J'ai appelé ma femme et je lui ai dit que je voulais me suicider. Elle ne comprenait pas pourquoi je m'étais rendu là, dit l'homme, qui est le seul soutien familial. Il dit ne pas avoir eu d'autre option que de rentrer dans son pays. À la fin de l'été 2024, apprenant que certains de ses camarades de classe se faisaient offrir une reprise de cours par les gestionnaires du programme du MIFI, il a tenté de plaider sa cause à distance. On lui a répondu qu'il lui serait impossible d'effectuer à temps toutes les démarches nécessaires pour réintégrer la formation et obtenir un visa pour revenir au Canada. C'était fini. Le Québec m'a rejeté, mais il était pourtant venu me recruter dans mon pays. Selon plusieurs sources, bien au fait du programme, les étudiants qui suivent la formation dans des cégeps en région sont moins susceptibles de se faire offrir une reprise en raison du manque de ressources et de personnel. Toujours au printemps 2024, un étudiant du cégep de la Gaspésie, qui demande que son identité soit protégée, a échoué à un examen pratique et a été aussitôt exclu du programme. J'étais en état de choc. On m'a dit que c'était fini. On ne m'a pas proposé de reprise, dit-il en entrevue au Devoir. La perte de son statut d'étudiant lui a également fait perdre ses allocations liées au programme, ses assurances médicales et la possibilité de travailler comme préposé aux bénéficiaires. J'étais sans revenu. Comment vouliez-vous que je me loge, que je mange? Lance-t-il, ajoutant qu'il a dû dormir dans sa voiture pendant quelques semaines. On lui a proposé de tenter sa chance hors du programme dans un cégep de Montréal, à des centaines de kilomètres. L'hôpital pour lequel il travaillait en Gaspésie lui a finalement offert de l'embaucher à temps plein comme préposé aux bénéficiaires, mais les délais d'obtention du permis de travail fermé l'ont laissé sans revenu pendant plus de 6 mois. C'est comme un cauchemar pour moi, et je n'arrive pas à me réveiller. Des reprises difficiles. La reprise n'est pas automatique et elle a un caractère exceptionnel, comme le confirme le ministère dans les courriels qu'il envoie aux étudiants. Ces derniers passent souvent plusieurs mois dans les limbes sans savoir s'ils auront une deuxième chance. « Notre permis a le temps d'expirer », explique l'étudiant de la Montérégie. Lorsque la reprise est accordée, l'étudiant doit parfois se rendre dans un autre cégep à des centaines de kilomètres de la ville où il s'était établi, ce qui implique un déménagement. Dans l'intervalle, les étudiants dont plusieurs sont venus avec leur famille sont sans revenus et n'ont pas accès à l'allocation du ministère de l'Immigration. Je me suis fait couper mes allocations il y a 2 mois. Comment je fais pour nourrir mes enfants? A confié au devoir une étudiante qui doit commencer bientôt la reprise qu'on lui a accordée. Tout ce que je vais pouvoir faire, c'est travailler quelques heures comme préposé pendant que j'étudie. Pour plusieurs, le paiement de l'allocation s'arrêtera au moment du retour en classe puisqu'elle n'est versée que pour un maximum de 62 semaines. Le cégep Édouard Montpetit rapporte que plusieurs étudiants en échec de la cohorte 1 se sont vus couper leurs revenus pendant 1 mois. Un rapport bilan des 3 cohortes que l'établissement a accueillies l'an dernier indique que 4 des 5 étudiants et étudiantes en situation d'échec n'ont pas eu le droit de bénéficier de la subvention du programme d'aide financière pour la formation d'appoint en reconnaissance des compétences, ni de travailler à titre de préposé aux bénéficiaires. Un sondage mené auprès de ces 3 mêmes cohortes, soit une 60aine de répondants, présente des constats préoccupants sur la situation financière des étudiants. À peine 43% d'entre eux ont une autre source de revenus que les allocations fournies par le MIFI et 51% ont répondu que leur conjoint ou conjointe n'avait pas réussi à trouver de travail. À peine la moitié des étudiants ont dit être en mesure de manger 3 repas par jour. Le sondage montre aussi que plusieurs étudiants vivent sans réfrigérateur, cuisinière ou matelas. Dans des rapports bilans que le Devoir a obtenus en vertu de la loi sur l'accès à l'information, plusieurs cégeps participant au programme suggèrent au MIFI de permettre aux étudiants de reprendre le cours ou le stage non réussi. L'option proposée de retourner au pays d'origine puis de revenir une fois le permis de travail comme préposé aux bénéficiaires obtenus n'est pas envisageable pour les étudiants. Ils ont tout abandonné dans leur pays d'origine, biens, postes et liens d'emploi, mentionne un rapport du cégep de Lévis transmis au MIFI. Il souligne aussi la longue durée d'attente après un échec avant l'accession au poste de préposé aux bénéficiaires. D'infirmier à préposé. Le MIFI indique pour sa part que la majorité des personnes ayant échoué à la formation d'appoint ont été embauchées à titre de préposé aux bénéficiaires. Or, ce prix de consolation offert aux étudiants est souvent accepté par dépit. Pourquoi recruter infirmiers et infirmières si c'est finalement pour nous transformer en préposés aux bénéficiaires? Si vous voulez les préposer, dites-le franchement, lance indigné un étudiant du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue avec qui le Devoir s'est entretenu. En cas d'échec, pour les étudiants qui refusent d'être préposés et qui n'abandonnent pas leur rêve de devenir infirmier ici, il existe également la possibilité de s'inscrire sur une liste d'attente au consortium en soins infirmiers du cégep du Vieux-Montréal, confirme l'une de ses gestionnaires, Maria Rosa Esgambato. La formation, qui ne fait pas partie du programme des infirmiers et infirmières diplômés hors Canada, financé par le MIFI, est toutefois aux frais des étudiants. Mais la gestionnaire reconnaît que ce n'est pas la panacée, puisque cela implique une panoplie de démarches et que les étudiants sont sans revenus dans l'intervalle. Il y a une nouvelle demande de permis d'études à faire et toutes les démarches sont plus longues, admet-elle. L'étudiant ne peut pas étudier, il ne peut pas non plus travailler. Il est pris. Madame Esgambato assure que le but n'est pas de renvoyer les étudiants dans leur pays. On a besoin d'eux et on veut les garder, dit-elle. Mais on veut s'assurer que les étudiants sont autonomes pour pratiquer comme infirmiers et infirmières et aussi qu'ils sont sécuritaires. C'est très important. C'était « Des étudiants africains abandonnés sans possibilité de reprise », un texte de Lisa Marie Gervais, paru le 29 janvier 2025 dans Le Devoir.
Pourquoi les femmes ont-elles plus de vertige? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 26 janvier 2025 dans La Presse. Georgette Blanchard, une lectrice, pose cette question. Citation. « les femmes souffrent plus de vertiges et d'étourdissements que les hommes. Est-ce que les souliers de femmes seraient une partie du problème? Les femmes sont bel et bien 2,5 fois plus susceptibles que les hommes de souffrir de vertiges non reliés aux hauteurs. Mais les talons hauts ne sont pas en cause, précise l'un des grands spécialistes du sujet, un neurologue berlinois. Citation. Il y a plusieurs facteurs potentiels, dont les hormones et les migraines, mais aucun d'eux ne concerne la posture due aux chaussures. Fin de citation, indique Michael von Breverne, du Centre neurologique pour les troubles et diagnostics du mouvement dans la capitale allemande. Citation. S'il y avait un lien, la différence entre hommes et femmes s'amoindrirait avec l'âge, parce que les femmes portent moins souvent des talons hauts quand elles sont plus âgées. Fin de citation. La principale différence semble tenir à une fréquence plus grande chez les femmes de troubles de l'oreille interne. Ces troubles incluent le vertige positionnel paroxystique bénin, un type de vertige causé par des cristaux situés dans des canaux remplis de liquide dans l'oreille. Michael von Breverne nous dit, citation, « D'après une des hypothèses, la migraine cause des dommages dans l'oreille interne. Comme les femmes souffrent plus souvent de migraines, cela explique que ces dommages entraînent plus souvent du vertige. » Fin de citation. Le rôle des hormones sexuelles dans le vertige a fait l'objet de nombreuses études, mais les résultats sont contradictoires. Citation. Il n'y a, par exemple, pas de lien entre le risque de vertige et l'utilisation de contraceptifs ou d'hormonothérapie, ou alors quand arrive la ménopause. Fin de citation, note le docteur von Breverne. Selon la troisième hypothèse, les vertiges seraient liés à la dépression ou à l'anxiété, des troubles qui frappent davantage les femmes. Âge et pression. Les femmes sont aussi plus susceptibles que les hommes de faire des chutes de pression sanguine, qui peuvent aussi être associées à des étourdissements ou à des syncopes, précise le chercheur allemand. Les vertiges sont également plus fréquents avec l'âge, mais cette augmentation touche tant les hommes que les femmes. Ces vertiges, dus au temps qui passe, sont attribuables à une dégradation générale de l'oreille, entraînant aussi la surdité, ainsi qu'à un équilibre plus instable, parfois pour des raisons de perte de masse musculaire. Quant au vertige normal des hauteurs, les femmes sont-elles plus susceptibles que les hommes d'en souffrir? Citation. Cette question n'a pas été beaucoup étudiée, justement parce que c'est un vertige normal. Fin de citation, répond le docteur Michael von Breverne. Citation. On sait que certains groupes ethniques ont moins le vertige des hauteurs. Alors il est possible qu'il y ait certaines différences entre les sexes. Fin de citation, ajoute-t-il. En savoir plus. Source, Michael von Breverne. 10% proportion des femmes qui souffrent de vertige. 4,3% proportion des hommes qui souffrent de vertige. C'était « Pourquoi les femmes ont-elles plus de vertige ?» un texte de Mathieu Perrault, paru le 26 janvier 2025 dans La Presse.
Squid Game, le jeu du calmar, saison 2. Entrée discrète, mais remarquée d'un personnage trans dans une série coréenne. Un texte de Benoît Mignot, paru le 31 janvier 2025 dans le magazine Fugue. La série coréenne à succès de Netflix nous entraîne à nouveau au cœur d'une dystopie conviant 456 concurrents, concurrentes, à s'affronter dans une compétition où les perdants, perdantes sont exécutés et où les survivants, survivantes se partagent une énorme cagnotte. Critique acerbe d'un capitalisme exacerbé, la saison 2 porte timidement un regard sur la réalité trans. Après avoir survécu à la précédente saison du jeu du calmar, Seong-gi-hoon, Lee Young-yae, est résolu de réduire à néant cette compétition sanguinaire, même si cela implique qu'ils doivent de nouveau y prendre part. Cette fois-ci, il peut cependant compter sur une aide extérieure en la personne du policier Wang Jun-ho, Wi Ha-jun, et d'un groupe de mercenaires. Évidemment, rien ne se déroule comme prévu et les deux hommes réalisent bien vite qu'ils affrontent peut-être des forces qui les dépassent. Bien que les deux premiers épisodes de la nouvelle saison soient un peu longuets, un rythme haletant reprend dès le troisième, offrant des performances hors pair à travers une représentation à la fois cynique et réaliste du meilleur comme du pire dont les êtres humains sont capables lorsqu'ils sont confrontés à la peur et à l'appât du gain. On peut notamment souligner l'ignoble Thanos, Choi Seung-yoon, qui est prêt à tout pour éliminer ses concurrentes. Au gré des épisodes s'impose également la personne de Cho Yoon-joo, une femme trans interprétée par l'acteur Park Sung-hoon, un sergent de l'armée coréenne qui a tout perdu après avoir assumé sa véritable identité de genre. La récompense offerte constitue donc un moyen inespéré de repartir à zéro et de pleinement devenir ce qu'elle est. Cette dure à cuire suscite immédiatement la curiosité et la sympathie, en particulier lorsqu'on constate le mépris que plusieurs concurrents-concurrentes affichent à son endroit. Certaines seront cependant confrontés à leurs préjugés, alors même qu'elles se révèlent une force tranquille avec laquelle il faut savoir compter. Le choix d'un acteur cisgenre a créé une certaine controverse, puisque cette décision participe à un phénomène d'invisibilisation des personnes trans. Wan Dong-yeok, le scénariste et réalisateur de la série, a expliqué qu'il a pris cette décision à regret, puisque en Corée du Sud, les femmes trans sont encore très stigmatisées. Il s'est donc révélé quasi impossible de dénicher une actrice trans. À titre de comparaison, il souligne qu'il existe également très peu d'acteurs ouvertement gays en Corée du Sud, puisque ce serait presque signer la mort d'une carrière. Conscient des enjeux d'une saine représentation, Netflix a cependant souligné que la série avait fait appel à des consultants transgenres et LGBTQ. Le personnage ne prend une réelle importance que dans les derniers épisodes de la saison, et on ne peut qu'être intrigué par le destin que lui réserve la série, dont la conclusion est prévue pour l'été ou la fin 2025. De même, sur l'évolution des relations de Cho Yoon-joo avec les autres personnages. La série Squid Game, le jeu du calmar, est diffusée en coréen, en anglais et en français sur Netflix. C'était Squid Game, le jeu du calmar, saison 2, entrée discrète mais remarquée d'un personnage trans dans une série coréenne. Un texte de Benoît Mignot, paru le 31 janvier 2025 dans le magazine Fugue.
Première expérience au camp, 6 conseils pour une transition en douceur. Un texte commandité, paru le 5 février 2025 dans la presse. Même si votre jeune se réjouit d'aller dans un camp de jour, suivez ces quelques astuces afin de vous assurer que son expérience se révèle agréable, voire mémorable. Parlez-lui-en fréquemment. Bien avant le début de son camp de jour, prenez le temps d'en discuter régulièrement avec lui. Cela l'aidera à se préparer mentalement et émotivement aux changements, ainsi qu'aux nouvelles expériences qui l'attendent. Lors de vos discussions, assurez-vous de répondre à toutes ces questions, car cela aura pour effet de le rassurer. Affichez une attitude positive. Quand vous abordez le sujet du camp de jour, assurez-vous de toujours afficher une attitude positive. N'oubliez pas que vos appréhensions peuvent déteindre sur lui. Lorsque vous en discuterez avec lui, présentez le camp comme une aventure excitante et insister sur le plaisir que cette expérience va lui procurer, les nouveaux amis qu'il rencontrera et les activités qui vont le motiver. Si vous avez déjà vécu une telle expérience quand vous étiez jeune, c'est l'occasion de lui en parler et de lui raconter vos plus beaux souvenirs. Familiarisez-le avec le camp. Avant son séjour au camp de jour, consultez avec lui le site Internet de l'organisme, y compris les médias sociaux comme la page Facebook s'il y a lieu, afin qu'il puisse se familiariser avec le lieu. Lisez les témoignages et regardez les photos et les vidéos avec lui. Si cela s'avère possible, Planifiez même une petite visite du camp. Pensez aussi à lui expliquer le fonctionnement de base du camp et à lire avec lui les règles qu'il aura à respecter. Discutez avec lui de ses peurs. Même si votre enfant a très envie d'aller au camp de jour, celui-ci peut quand même éprouver certaines inquiétudes par rapport à son expérience, surtout s'il s'agit de sa première fois. Évitez donc de les banaliser et prenez le temps de le rassurer. Parlez-lui notamment de la présence constante des animateurs qui visent à combler ses besoins et à lui apporter la sécurité comme à la maison. Favorisez son autonomie. Votre enfant devra faire preuve d'autonomie au camp de jour, puisque l'animateur devra s'occuper de plusieurs jeunes en même temps. Avant le début de celui-ci, aidez donc votre enfant à développer le plus possible son autonomie, surtout s'il est petit. Apprenez-lui notamment à enfiler ses vêtements, mettre et enlever ses chaussures, aller aux toilettes, se laver les mains et se moucher seul. Bien que cela ne soit pas toujours facile, surtout au début, insistez sur le fait qu'il doit essayer par lui-même avant de demander de l'aide. Préparez son sac et son équipement. Impliquez votre enfant dans la préparation de son sac et de son équipement. Cela le responsabilisera davantage et lui donnera le goût d'aller au camp. Vérifiez toutefois les exigences du camp avant de commencer. Chaque camp possède en effet sa propre liste d'effets personnels à apporter. Pensez aussi à inscrire son nom sur tous les items qu'il apportera pour éviter qu'il ne les égare. Enfin, si votre enfant prend ou a besoin de médicaments, épinéphrine ou inhalateur de secours par exemple, assurez-vous qu'il les transporte toujours avec lui dans son sac. C'était « Première expérience au camp », 6 conseils pour une transition en douceur, un texte commandité paru le 5 février 2025 dans La Presse.
Entre hommes, le service de matchmaking, un besoin d'authenticité. Un texte d'Étienne Dutil paru le 28 janvier 2025 dans le magazine Fugue. Les algorithmes pour trouver l'amour à l'agence de rencontres entre hommes d'Intermezzo à Montréal, on n'y croit pas. Et la présidente Joanne Sawaya-Paiement de l'agence ne cache pas son scepticisme face aux innovations que les outils d'intelligence artificielle, IA, pourraient apporter au marché. Plus il y a d'applications de rencontres, plus il y a de frustrations, constate la propriétaire de l'entreprise depuis plus de 10 ans. Chez Intermezzo, les 6 employés, ou chasseurs de cœur, travaillent à partir du bureau situé à Outremont. Pas de télétravail ni de réunion sur Zoom. Les hommes à la recherche d'un partenaire de vie sont rencontrés en personne et les dossiers papier, confidentiels, ne doivent pas sortir du bureau. Dans le processus, pas d'appel ni de messages texte échangés avant les rencontres, sauf pour fixer le premier rendez-vous. Au téléphone, on se dévoile trop tôt à des gens qu'on ne connaît pas, au risque de compromettre les chances de réussite de la première rencontre, explique Joanne Paiement. Pour Joanne Paiement, 3 variables sont à prendre en considération dans l'organisation d'un premier rendez-vous réussi. La chimie, un mode de vie compatible et des valeurs communes. Et si les algorithmes peuvent quantifier les 2 dernières données, la chimie, elle, est difficile à prévoir. Pour évaluer les chances de succès d'un match, les chasseurs de cœur de l'entreprise observent le langage corporel, ce que la personne dégage. Une job d'expérience et d'intuition, affirme la présidente. Une job que ni l'IA ni l'intégration de profils génétiques ou de l'ADN au profil de rencontre ne pourraient remplacer. Les tests génétiques pour matcher, ce n'est pas nouveau, raille la matchmakeuse. En 2010 aussi, l'ancien propriétaire de l'entreprise proposait des tests génétiques aux clients, mais ça ne marche pas. Quant à l'utilisation de ChatGPT ou de l'IA pour générer des profils ou des messages, ce n'est qu'un mensonge de plus, se désole Joanne Paiement. On pouvait déjà mentir sur son âge, sur sa taille, sur son poids, et maintenant sur ses messages. Dans un processus de rencontre, il faut se montrer comme on est. Selon une étude réalisée en 2023 auprès de 4000 célibataires aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada, 80% des 18 à 25 ans priorisent l'authenticité et le bien-être mental lors d'une rencontre. Ce besoin d'authenticité se traduit chaque jour dans le bureau de Joanne par un élargissement et rajeunissement de sa clientèle qui ne veut plus perdre son temps et manque d'occasions de rencontre depuis la généralisation du télétravail. Sans algorithme, l'agence de rencontre voit son chiffre d'affaires augmenter chaque année d'environ 10%. Cependant, avec les moins de 30 ans, Joanne voit son métier évoluer. Elle offre un service de coaching pour aider les plus jeunes à développer leurs habiletés sociales. C'est un nouveau défi. On doit les préparer à faire des rencontres. En Amérique du Nord, on ne rencontre plus organiquement. Il y a un immense choix en ligne qui nous permet de magasiner. Résultat, les liens d'amitié, les connexions dans la vraie vie ne se font plus. Pour Joanne, c'est ce manque de rencontres organiques qui explique l'engouement des investisseurs pour le marché. En 2021, en pleine pandémie de COVID-19, la capitalisation boursière de Match Group, propriétaire entre autres de Tinder, a largement dépassé les 40 milliards US, rappelé en janvier dernier le Wall Street Journal. Cependant, elle est aujourd'hui de 10 milliards US et les analystes observent un ralentissement de la croissance plus tôt et plus fort que prévu, indique le journal économique. De la bourse au matchmaking. La bourse, c'était le rêve d'enfant de Joanne. Après des études en comptabilité, elle entre à la Bourse de Montréal en 1981 comme adjointe au trésorier avant de monter les échelons et de devenir première vice-présidente et directrice générale pour les finances et l'administration jusqu'à son départ en 2000 pour se consacrer à ses enfants. À la suite de sa première carrière, elle décroche un bac en psychologie et postule chez Intermezzo. Elle adore ça et retrouve dans le matchmaking l'adrénaline, la pression, l'intuition qui la faisait palpiter à la bourse. Il faut beaucoup d'écoute. Pour Joanne, c'est cette oreille, le principal atout des agences face aux apps de rencontre. Le soutien émotionnel, l'empathie qu'aucune IA ne peut aujourd'hui offrir. Car quand tu te fais ghoster sur une date grinder, tu ne peux pas appeler l'appli pour te plaindre. C'était Entre Hommes, le service de matchmaking, un besoin d'authenticité. Un texte d'Étienne Dutille, paru le 28 janvier 2025 dans le magazine Fugue.